RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que justement, on se demandait qu'est-ce que Bernard Pivot a changé dans nos vies toutes ces années, ces 15 ans où il a présenté Apostrophe, Bouillon de Culture. Quel livre il nous a donné envie de lire? Qu'est-ce qu'il a éveillé en nous? On va prendre 10 petites minutes pour en parler avec vous au 32-16. Bien sûr, on va réécouter Bernard Pivot. Vous vous souvenez notamment lorsqu'il avait reçu François Mitterrand pour discuter littérature.
Mais une chose qui m'avait frappé, c'est que tous les écrivains... J'ai dit, mais vous voulez parler de qui pendant ces... On avait préparé quand même au téléphone l'émission pour dire, vous voulez parler de qui? Alors il m'a dit, j'aimerais parler de Lamartine, de Jules Renard, de Buzzati, de je sais plus qui. Et quand il a dit, je me suis dit, mais ce sont tous des écrivains de droite.
Voilà, sa petite anecdote sur François Mitterrand. Bernard Pivot sont des centaines d'émissions, sont des millions de téléspectateurs. C'était presque un rendez-vous, c'était la messe littéraire le vendredi soir. Il y avait Bernard Pivot qu'on regardait en famille pour se cultiver. C'était la fois, moi je me souviens, où je pouvais rester le vendredi soir à 12 ans, 13 ans, un peu tard devant la télévision.
Ça a duré 15 ans parce que pour la première fois, Apostrophe est diffusé le 10 janvier 1975 sur Antenne 2. Et ça sera le cas tous les vendredis soirs jusqu'en 1990. Et ensuite, il présentera Bouillon de Culture, qui était à peu près la même chose, parce que c'était ouvert à d'autres arts que la littérature. Il a symbolisé l'émission littéraire. Il n'a jamais été remplacé, même s'il y a de très bonnes émissions littéraires aujourd'hui. Il reste la référence en la matière. Parce que, alors c'est vrai qu'on parle quand même d'une télé que les moins de 20 ans, les moins de 30 ans n'ont pas connue. Hein. C'est une télé qui prenait le temps, ça durait une heure et demie, avec parfois des écrivains quand même qui étaient exigeants, qu'il fallait accoucher. Et sa force, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que il était on se mettait à sa place, ou il était à notre place en fait. C'était le téléspectateur qui questionnait avec curiosité l'écrivain qu'il avait devant lui. Et c'est d'ailleurs l'écrivain qui était plus important que l'animateur, même si on retient Bernard Pivot, mais il a reçu les plus grands. Il a fait des coups extraordinaires. Il a eu ce Jellicine, il a eu Nabokov, il a fait venir Mitterrand. Il a révélé tous les grands écrivains qui ont marqué les années 70-80. Alors, je ne sais plus qui disait hier soir. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus ces grands écrivains. Et peut-être qu'on aurait du mal à faire une émission à la hauteur d'Apostrophe parce que les invités seraient moins prestigieux que les invités que pouvait avoir Bernard Pivot.
Alors, qui se souvient de ces soirées, Bernard Pivot, Jérôme?
Ouais, c'était une institution. Il avait su le faire devenir. Il y avait en fait deux émissions à l'époque. On en parlait tout à l'heure qui étaient institutions. Il y avait Apostrophe et puis il y avait Droit de réponse de Michel Pollack. Tu avais une émission politique, donc, et puis une émission littéraire avec un... je sais pas comment on peut l'appeler, animateur, guide, etc., transmetteur, passeur, qui respectait profondément son public et les Français, parce que c'était une émission qui était construite sur l'intelligence, et donc il savait que l'intelligence pouvait être de n'importe quelle classe sociale. Il intéressait tout le monde, il méprisait pas les gens, quoi. Il était profondément respectueux des Français, profondément respectueux de la langue française qu'il a défendue pendant des années, souvenez-vous de la dictée de Pivot.
Oui.
Et donc ces choses-là, ça nous montre quand même un décalage. Bon, c'est ça qui m'a frappé, c'est que quand on regarde, qu'on se retourne comme ça en arrière et qu'on se dit que ces émissions basées sur l'intelligence, basées sur la culture, faisaient des gros audimates.
Mais qu'il était pas, il était pas pédant, il était pas intello dans le mauvais sens.
Mais non, il était absolument pas intello.
Il était
un Français qui interroge justement des grands écrivains, il amenait tout le monde à la compréhension et à l'intéressement par rapport à cela. Et tu as un décalage terrible avec les émissions qui font de l'audimat aujourd'hui, qui sont basées, il faut le dire quand même, souvent sur la bêtise. Donc c'est, moi, à mon avis, c'est un déclassement de la France, il est là. Il est dans sa perte culturelle et d'intelligence.
Antoine, vas-y.
Non, mais moi, Antoine, il n'a pas connu.
Moi, je n'ai pas connu. J'ai 35 ans.
Ah oui.
J'ai 35 ans et je n'ai pas du tout connu. Et effectivement, ça ne me parle pas du tout. En revanche, de la façon dont vous en parlez, ça va alimenter encore mon côté « c'était mieux avant ». Il y avait donc avant, sur le service public, le vendredi soir, il y avait une émission intelligente. Mais c'était quoi ce pays? C'est formidable, il y avait des choses intelligentes à la télé. Donc vraiment, moi j'ai jamais regardé une émission de Bernard Pivot de l'époque. Et là, vous me donnez envie d'aller voir comment c'était. En plus, j'adore le style vestimentaire de ces années-là, etc. Voilà, donc
les grosses cravates,
le col Pellatar,
les gros nœuds de cravate.
Bah moi, je suis née en 72 et j'ai eu mon bac en 90. Donc autant vous dire que je suis vraiment dans les années Pivot. Et comme en plus mes parents étaient vraiment, des grands amoureux.
Tu m'as dit que tes parents t'obligeaient à regarder Pivot.
À un certain âge. C'est-à-dire, au début, non, parce que quand j'avais 7-8 ans, ils regardaient tous les vendredis, ils regardaient Pivot. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été en troisième et au lycée, ma mère considérait que c'était une forme d'obligation de regarder Pivot. Alors parfois, je regardais pas tout parce qu'il y avait des fois des invités qui me fatiguaient un peu. Et des fois, je comprenais pas tout. Mais ça a alimenté en partie ma passion et mon amour de la littérature, parce que je suis prof d'histoire, mais j'ai longtemps hésité à être prof de lettres. Et donc, il y a aussi une chose que je voudrais dire sur Pivot, c'est que c'était pas le valet de la doxa de son époque. Parce que les années 70, 80, 90, il y avait le politiquement correct aussi, il y avait la doxa de l'époque, etc. C'était pas le valet de certains politiques, c'était pas le valet des éditeurs, c'était pas le valet des critiques littéraires qui le lendemain allaient dire ci ou ça. Il avait sa façon de voir les choses. Il était un passeur de littérature, un passeur de, comme tu le disais, Jérôme, un passeur de mots. Il a jamais accepté la Légion d'honneur ni la récompense des arts et des lettres, parce que précisément, il disait que lui, il se sentait pas mérité une telle récompense et que peut-être d'ailleurs, il aimerait peut-être pas forcément être à côté de ceux qui ne la méritaient pas, mais qui l'acceptaient. Donc, je pense que vraiment, c'est pour moi, c'est vraiment le français. Il vient d'un milieu populaire. C'est un enfant d'épicier, un fils d'épicier.
À Lyon.
Merci à l'école de la République, quand l'école de la République était à la hauteur et qu'elle permettait ce genre d'émancipation, qui ensuite allait devenir un grand monsieur du journalisme et qui allait permettre à tant de millions de Français
de lire
et de se passionner pour les mots. Regardez aujourd'hui où on en est, excusez-moi. C'est pas seulement qu'il y a beaucoup de chaînes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes avant.
Oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de chaînes non plus. Il y avait 3 chaînes.
1, 2, 3. Bon, tu revenais vite à la 2.
Et tu ne zappais pas parce que tu n'avais pas de télécommande.
Non, il fallait se lever.
Il fallait se lever pour changer de chaîne.
Et je me levais souvent. Oui. C'est
l'enfant qui y avait.
C'est les enfants qui se levaient.
On a même connu l'époque où on tournait le bouton.
Exactement.
Mais aujourd'hui, tu as une grande proposition, tu as une large proposition d'émissions littéraires. Excusez-moi, je ne vais pas donner de nom parce que j'aime pas ça.
Si, on a.
Mais regardez les émissions littéraires aujourd'hui. Non, c'est justement. Tu as des valets, tu as des petits valets.
Ouais, et c'est coincé.
Ils reçoivent l'auteur et ils lui servent la soupe. Et on te sert la soupe et on te sert la soupe. Et on débite des vérités toutes faites sur. Alors il y a les méchants, il y a les gentils. Alors, chez Pivot, il n'y avait jamais les méchants et les gentils, il y avait la littérature.
Attends, on a un témoignage qui vient d'arriver au 32-16. C'est pour ça que j'adore les GG et le 32-16. Parce qu'il suffit qu'on dise. Qu'est-ce que Pivot éveille en vous pour que tu es quelqu'un qui a un souvenir et qui nous appelle. Et c'est Roberto, qui est des Alpes de Haute-Provence, qui est un ancien journaliste à La Provence. Bonjour Roberto.
Oui, bonjour. Bonjour, bonjour au grand gueule. Oui, j'ai un souvenir ému de Bernard Pivot, parce que en tant qu'ancien journaliste à La Provence, je connaissais très bien également Edmond Charleroux, qui à l'époque était président de l'Académie Goncourt, et son meilleur ami, c'était Bernard Pivot. Et un jour, vous savez, à côté de Manosque, il y a un petit village qui s'appelle Banon, où il y a ce réputé fromage, et il y a une librairie extraordinaire à Banon qui s'appelle Le Bleuet, qui est une des plus grandes librairies de France maintenant, alors que le village compte 800 habitants. Et j'ai convaincu Edmond Charleroux d'aller faire une séance de dédicace le jour de la fête du fromage, dans cette librairie, et elle m'a dit, tiens, j'ai demandé à Pivot s'il veut venir. Et j'ai été chercher Pivot au TGV à Aix, je l'ai ramené chez Edmond, à Saint-Antonin-sur-Bayon. On a dîné ensemble, et le lendemain matin, nous sommes allés à Banon. Et là, ça a été la grande fête. Mais Bernard, depuis, on est toujours resté en contact, il m'écrivait, on échangeait souvent des SMS. Et jusqu'en 2022, où il a commencé à être malade, et je l'ai vu, il décrivait plus. Mais avant, et ce qui est génial, c'est que, avant de se rendre donc à Banon, il s'était renseigné, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il c'était un amoureux du vin et du vin rouge, notamment du Beaujolais. Ouais. Il s'était renseigné, parce qu'à côté de Banon, à l'époque, il y avait un petit village, je crois qu'il s'appelle Saumane, où il y avait un petit bistrot de pays où on servait un plat du jour, mais qui avait des bouteilles de vin extraordinaires. On avait du château Cheval Blanc, etc. Il m'avait demandé, mais à midi, on mange où? Alors, j'ai dit, ici, sur place, et mince, parce que j'avais repéré un petit village à Saumane. Et voilà. Et donc, c'était quelqu'un de merveilleux, quoi, très gentil.
Et sympa, discuter facilement et tout aussi, Roberto.
Oui, absolument, très très facilement. Et alors, il était tombé en admiration devant cette librairie au Bleuet, parce que il regarde le rayonnage et puis il m'a dit c'est pas possible. Alors je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit ça fait 20 ans ou 30 ans que je cherche à Paris mon premier livre que j'ai édité, qui s'appelle « Oh là là, la vie » ou « La vie, oh là là », je ne me souviens plus. Je ne l'ai jamais trouvé parce qu'il n'a jamais été réédité. Et je viens de le trouver ici, sur ce rayonnage. Donc, il était ravi. C'est pour ça qu'il avait gardé un souvenir très ému de Bannon, de son fromage et de sa librairie. Voilà.
Merci d'avoir partagé ce souvenir avec nous, Roberto.
Je vous en prie.
Merci.
Et bravo pour vos émissions très sympathiques et toujours bien construites et intéressantes.
Merci. Si demain vous êtes du côté de Marseille, si vous avez le temps, Roberto, passez nous voir du côté du Mucem. Merci Roberto, bonne journée.
Merci,
à bientôt.
Bonne journée
à bientôt pour les GG. Et tiens, puisqu'on parle littérature, vous avez un livre de chevet, un livre que de temps en temps vous reprenez pour relire ne serait-ce que quelques pages ou pas, Barbara?
Ah ben moi c'est l'éducation sentimentale de Flaubert, parce que c'est le livre qui m'a fait le plus grand choc littéraire et comme Flaubert le disait, c'est un livre sur rien. C'est-à-dire que quand on a fini les 750 pages, on se dit, mais toute cette histoire, tu ne mènes à rien avec ces personnages qui ont des vies, qui vivent à un moment historique incroyable, qui est la révolution de 1848. Mais au final, il reste que leur petite histoire personnelle qui, en plus, n'est même pas un grand aboutissement. Et donc, voilà, c'est Flaubert, c'est de toute façon toujours sur ma table de nuit.
Jérôme,
le Vidal.
Ah, Romain, je peux consulter en tant qu'hypochondriaque, ça m'arrive.
Non, sinon pour la littérature classique, Les Misérables de Victor Hugo, je crois qu'on fera jamais mieux. Et après deux romans fiction classiques, un de Barjavel, La Nuit des Temps, et puis un autre qui est Empire du Soleil, dont est tiré le film de Spielberg. Qui en livre est un monument et qui décrit donc la vie d'un jeune garçon qui se fait emprisonner dans un camp à Shanghai à l'époque où le Japon avait envahi la Chine en 1945 et qui va construire sa vie sur les rapports humains au sein d'une prison et enlever justement tout ce qui est violence et permettre à ce que la violence diminue au sein d'une prison.
Et toi Antoine ?
Livre magnifique.
Moi, j'ai pas de livre de chevet. Ce serait pas vrai si je vous disais que j'avais un livre à côté de mon lit. Mais j'ai un livre que je relis régulièrement depuis que j'ai 18 ans. Ça va pas vous surprendre. C'est Le Camp des Saints de Jean Raspail. Un livre dont l'auteur lui-même disait qu'il aurait été interdit aujourd'hui. Je l'ai lu à 18 ans et c'est ma claque en termes de littérature. J'ai lu beaucoup d'autres choses, mais Le Camp des Saints, c'est écrit dans les années 70, si je dis pas de bêtises, par un grand auteur, Jean Raspail, qui décrit la façon dont un bateau de migrants africains va arriver sur nos côtes et dont les bonnes âmes vont dire nous devons les accueillir et il y aura dans le roman très peu de gens pour dire non mais attendez on peut pas accueillir toute l'Afrique. Et ben je trouve que ce truc là était visionnaire et que j'invite tout le monde à le relire aujourd'hui parce qu'on est pile dans le débat.
Non mais Jean Raspail,
on est marqué par ses premières lectures.
Sur un point je suis d'accord avec Antoine. Jean Raspail est un très grand écrivain français. Très méprisé par le politiquement correct. C'était un grand voyageur qui s'est beaucoup intéressé au peuple, justement, qui s'est beaucoup intéressé à l'identité des peuples et notamment au peuple des Inuits, etc. Il avait écrit des textes magnifiques, Terre des Hommes, etc. Donc, faut pas mépriser Jean Raspail, c'est un très grand écrivain.
Et puis, un dernier mot, parce qu'hier, quand on a appris la mort de Bernard Pivot avec Olivier, on était à BFM TV, puis on présentait BFM Story, on avait en ligne Fabrice Lucchini. Que l'on salue parce que Fabrice Lucchini nous a surpris hier, alors qu'on était en plein hommage à Bernard Pivot, à faire l'éloge des GG.
Vous êtes étonnants tous les deux parce que vous êtes d'une famille pas lointaine de Pivot parce que vous êtes dans la filiation, non, c'est très... Alors vous vous occupez pas trop de littérature, vous êtes plutôt grande gueule, mais enfin vous êtes plutôt grande gueule dans le bon sens, hein, dans votre émission, mais vous êtes très bon et je suis sûr que Pivot vous aimez bien. Vous êtes émission où il y a des gens qui s'engueulent, Consigny avec le jeune homme très utopiste, José, comment il s'appelle, le gauchiste là.
C'est Bruno Poncet. Ah oui.
Mais bon voilà, Monsieur Lucchini, c'est quand vous voulez.
Mais il écoute et regarde les grandes gueules.
On aimerait bien
qu'il vienne dans les grandes gueules. Donc Fabrice, si tu nous écoutes, on t'attend.
Et j'aimerais parler de Flaubert avec lui.